Messieurs, la mise, s'il vous plaît.
200.
200 pour vous.
200.
Je relance 500.
Plus 1000.
Je suis.
Tapis.
Je me couche.
Tapis. Plus. Ma maison et ma voiture.
Messieurs, montrez vos cartes, s'il vous plaît.
La vie, c'est comme une partie de poker. Il faut savoir jouer les bonnes cartes. Il y a des moments où il faut prendre des risques. Et le risque, c'est quoi au fait?
Nous avons réfléchi toute une semaine, organisé des rencontres, des reportages, pour vous concocter cette émission sur le thème du risque.
Et autant dire qu'à notre âge, le risque, on sait déjà ce que c'est.
Avant, je ne prenais pas de risques. Je ne fumais pas, je ne faisais pas de conneries. Mais un jour, en voyant tous mes amis en faire, je me suis dit pourquoi pas moi. Alors j'ai grillé ma première cigarette et bu ma première bière. J'avais l'impression de vivre un peu plus, alors je me suis même mis à voler. Ce genre de bêtises, quoi. J'avais pas envie de routine, j'avais besoin d'adrénaline. Mais passer 2 jours en garde à vue, les allers-retours au commissariat, voir ma famille triste, forcément on en a marre à un moment. Alors j'ai décidé de me ranger. Il faut beaucoup de volonté. Maintenant que j'ai décidé de tout arrêter, je me sens moins vivant. J'avais pris l'habitude des risques avec la justice. Mais en fait, j'avais pas le choix. À trop risquer, je me suis retrouvé en danger. Et c'est la peur qui l'a emporté.
Pour moi, le risque, c'est quand j'ai foncé dans un buisson avec mon scooter. J'ai trouvé ça bien, un peu comme dans Jackass. Vous savez le film où des gars font juste des conneries pour rigoler. Mais en fait, quand j'y repense, ça a été con, parce que péter une pièce à 200 euros, ça fait pas plaisir. Et après, se faire engueuler par ses parents, c'est pas amusant. Un autre jour, j'ai sauté de ma fenêtre parce qu'il y avait des potes. Et aussi, j'étais un peu alcoolisé. Après, quand tu passes 3 jours à l'hôpital et qu'il n'y a que ta famille qui vient te voir et pas tes potes, ça fout la haine. Surtout que je suis resté 4 mois en béquille et en fauteuil roulant. En plus, quand tes parents et toute ta famille t'engueulent pour la connerie, ça te fait réfléchir. Mais depuis que je me suis fracturé l'os, j'ai arrêté tout ça. Je crois surtout que j'ai grandi dans ma tête.
Quand on parle de risque, on pense aux conduites à risque, aux drogues quoi. On est donc allé rencontrer un centre de soins contre les addictions.
Alors bonjour, moi je m'appelle Jean-Paul Gonneau. Je suis directeur du centre Logos. Donc le centre Logos est un lieu d'accueil et de soins pour des personnes qui ont des problèmes d'addiction. Et les personnes qui ont des problèmes d'addiction, ça veut dire que ce sont des jeunes et des moins jeunes qui ont des problèmes d'addiction, ça veut dire qu'ils consomment des substances psychoactives illégales pour certaines, comme le hashish ou l'héroïne, ou légales, comme l'alcool ou les médicaments. Donc mon travail consiste à faire de la prévention et du soin à ces personnes-là.
Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on prend des drogues ?
Alors là, l'interview va être un petit peu longue, je pense, parce que ça va prendre du temps. Je vais essayer de le résumer rapidement. La première des raisons, c'est l'âge auquel on consomme de la drogue. En général, on commence à consommer des substances psychoactives à l'adolescence. Pourquoi à l'adolescence ? Parce que à l'adolescence, c'est le moment où on va expérimenter un certain nombre de choses. Et les produits en font partie. C'est-à-dire que c'est à l'adolescence, enfin à la préadolescence, qu'on va commencer à consommer ses premières cigarettes. Bon. Donc on va essayer, on va prendre des risques en vélo, prendre des risques en scooter, prendre des risques en consommation, prendre des risques dans les relations qu'on peut avoir avec ses parents. Bon voilà, donc tous les adolescents vont pas en consommer et tous les adolescents qui consomment vont pas continuer à consommer. Certains vont s'arrêter, bon voilà. Ce que j'ai oublié de dire fondamentalement, c'est que si depuis le début de l'humanité, on consomme des produits, c'est parce qu'aussi il y a une notion de plaisir. C'est un des moteurs de la consommation. Ce qui va faire qu'on va continuer à en consommer et qu'on va en consommer de plus en plus, là, c'est parce qu'on va être en difficulté.
Quels sont les risques quand on prend des drogues ?
Là, les risques sont... alors, on va les résumer. Hein. Il y a un risque judiciaire, hein, c'est-à-dire que si on consomme une drogue illégale, on tombe sous le coup de la justice. Donc, judiciaire, les risques sociaux, c'est-à-dire que effectivement, lorsqu'il y a des consommations qui sont plus ou moins importantes, on décroche de son quotidien, c'est-à-dire que c'est déscolarisé pour certains. Ça peut avoir des conséquences familiales, bien évidemment. Hein. Après, il y a des risques somatiques, hein. Donc des maladies, quoi. Hein. Et puis, un des risques majeurs liés à la consommation, c'est le risque de dépendance. C'est-à-dire qu'on devient accro aux produits qu'on consomme et qu'on ne puisse plus s'en passer. Donc.
Et vous, est-ce que vous prenez des risques ?
Oui, je prends des risques. Alors, je prends des risques d'un point de vue professionnel parce que j'aime bien innover. Moi, ce que j'appelle risque, pour moi, en tout cas dans mon travail, c'est ne pas reproduire la même chose en permanence. Après, des risques, oui, je peux en prendre, par exemple, quand je conduis une moto, oui, ça peut m'arriver, effectivement, parce que j'aime bien la vitesse, j'aime bien que je suis attentif à ne pas trop prendre de risques, heureusement à l'âge que j'ai, mais le risque, ça a un côté qui est agréable, qui fait plaisir, c'est aussi pour ça qu'on va vers le risque, hein. C'est aussi parce que voilà, ça a un côté comme ça qui vient mettre de l'adrénaline un petit peu dans les veines. Donc oui, ça m'arrive de prendre des risques, bien évidemment.
D'accord.
T'es franc, hein ?
Oui.
Et encore, j'ai pas tout dit.
D'accord. Bon, ben je vous remercie et au revoir.
Oui.
Pour moi, prendre des risques, c'est le top. Pourquoi ? Ben, parce que prendre des risques, c'est la plupart du temps prendre une partie de plaisir. Pour mieux me faire comprendre sur ce sujet, je vais vous raconter une de mes petites expériences risquées. Quand j'étais plus petit avec mes potes, on a trouvé une paire de rollers dans ma cave. On a tous eu la drôle d'idée d'aller les essayer alors qu'on n'en avait jamais fait auparavant. On a décidé d'aller sur un parking. Arrivé sur place, un de mes collègues avec lequel j'étais toujours en compétition a enfilé les rollers avant moi. Il fait une ligne droite de ouf, puis tombe et se fait une bosse à la tête. Plein d'orgueil, je voulais faire mieux que lui. Alors je ramène tous mes potes en haut d'une pente, j'enfile les rollers et là je leur demande de me pousser. Et là, mon cœur s'est mis à battre plus vite et plus fort. Arrivé au milieu de la pente, je me raconte de l'erreur que je viens de faire. Il y a des voitures partout et je sais même pas freiner. Au final, j'ai évité l'accident. Et je me suis bien amusé. Mais ça, c'est des risques de gamin. Maintenant que j'ai grandi, je prends des plus gros risques. Ils me coûtent plus cher, mais ils sont plus excitants aussi. J'avoue que parfois, ce n'est pas si drôle que ça pour les victimes de mes jeux. Après m'être amusé, je pense au mec à qui j'ai piqué la voiture. Et je me dis que c'est pas si marrant pour le gars. En plus, j'ai bien failli me tuer avec cette caisse. Le problème, c'est que l'appel du risque est tellement fort parfois que je ne peux pas le refouler. Et puis moi, je me dis que le risque a ses raisons que la prudence ne connaît pas.
L'agence TLR, c'est l'agence de voyage de tous les risques. On vous propose une gamme de voyages les plus risqués les uns que les autres. Ils vont vous transporter vers des univers mystérieux.
Bonjour.
Bonjour. Que voulez-vous ? Qu'est-ce que je vous propose ?
Moi, si je suis là, c'est pour faire le voyage le plus mortel de ma vie.
Ça tombe très bien. Justement, j'ai des destinations très sympas à vous proposer. Une petite escapade à travers les magnifiques banlieues chaudes de la France. Où venez découvrir la vie dans une favelas de Rio de Janeiro.
Ouais, bof, vous n'avez pas un truc un peu plus mortel à me proposer ?
Quelque chose de plus dangereux ? J'ai ce qu'il vous faut. Hey, Simba, attaque !
t'aurais plus de 40 courses ici. Moi, c'est là où j'ai vu ma première corrida. Mais bon, c'est un lieu emblématique où j'ai vu les plus grands toreros défiler. Je me souviens de toutes mes courses, de tous les paseos, des fans que j'ai pu réaliser à tel endroit. Pas au millimètre après, mais pas loin.
Combien de temps avez-vous exercé ce métier de torero? Et est-ce que l'on peut vraiment parler de métier?
Tout d'abord, c'est une passion. C'est une passion. Mais quand la passion elle va vers le professionnalisme et que l'on gagne forcément sa vie avec ça, d'une passion, ça restera toujours une passion, mais ça fait un métier. Moi, j'ai arrêté en 2007, j'ai pris mon alternative dans les arènes de Nîmes en 1990, le 2 juin 1990, dans ces arènes. Et en activité, j'y suis resté 18 ans.
Quand on est dans l'arène face au taureau, comment gère-t-on le risque?
Ma peur, je l'ai gérée par moments assez bien. Et il y a d'autres moments où ça a été très très dur aussi. Et notamment l'attente, elle est insupportable. Quand on arrive dans les arènes 20 minutes avant, bon, il y a la presse, il y a surtout bon, l'attente aussi des taureaux qui nous attendent au taureau, la responsabilité de faire le passeo. Et surtout, c'est la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Comme je dis, la blessure, elle est secondaire. On sait pertinemment qu'on peut triompher et qu'on peut être blessé, voire très grièvement blessé. Mais ça, ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est qu'il y a des aficionados qui viennent voir des toreros. Ce qu'ils ont envie de voir, c'est du spectacle.
Comment un homme qui fait maximum 80 kg arrive à gérer la force d'un animal qui en fait 500 avec une simple cape?
Ça, c'est la première fois qu'on me la pose, ça. Je pense que ce n'est pas une question de poids. C'est une question de connaissance. Tu n'affrontes pas un taureau du jour au lendemain, un taureau adulte de 4 ans, 5 ans, de 500 ou 600 kg, voire plus. Donc ce sont des étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu débutes, tu vas taurer des petits taurillons. Forcément, on ne va pas se mettre d'emblée avec un taureau de 500 kg quand tu n'as aucune technique. Toutes ces étapes-là, il ne faut pas les brûler. Ne serait-ce qu'un petit taureau, d'un an et demi, 2 ans, ça impose énormément le respect. Même moi, quand je me mets devant, de temps en temps, j'ai toujours quand même cette peur, cette trouille.
Est-ce que les taureaux ont plus de courage que les autres hommes?
Moi, je veux dire une chose. Le courage, tout le monde l'a. Admettons, pour se lever à 4h ou 5h du matin pour aller à l'usine, il faut être courageux. On va peut-être pas se jouer la vie. Mais c'est pas évident non plus. Mais il y a des métiers où le courage, ça nous sert à aller vers celui-ci, c'est-à-dire, moi pour ma part, vers le taureau. Donc, en quelque sorte, pour nous les taureaux, en premier, c'est vrai, c'est le courage. Mais le courage ne suffit pas. Pour ma part, le taureau doit avoir 40% de courage, mais 60% de technique. C'est-à-dire qu'il faut taurer avec la tête.
Maintenant que vous êtes moins exposé, est-ce que le risque, l'adrénaline et tout le reste vous manquent?
Le fait d'être dans l'arène avec le taureau face à lui, ça peut paraître un petit peu paradoxal, c'est ce que je suis en train de dire. Il y avait cette peur, d'accord. Mais moindre que quand je vois un compagnon, ne serait-ce même le taureau que j'approdère, ou tous les autres taureaux taurés. Pourquoi? Parce que je me suis mis devant ces taureaux, je sais la difficulté qu'il y a, mais par moment, quand je vois des taureaux faire des efforts avec des taureaux, je veux dire, très sérieux et compliqués, je me dis, mais comment j'ai pu être capable de faire ça?
J'ai commencé le BMX en regardant des vidéos sur internet. Puis je m'en suis acheté un. Et je me suis vite amélioré. J'aime cette sensation de vide quand je suis dans les airs. Mais le problème, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ça m'est déjà arrivé de me retourner le bras. Si je continue encore, c'est que j'aime la poussée d'adrénaline que ça me procure. Cette année, j'ai participé au Festival International des Sports Extrêmes, le FIS, à Montpellier. Moi, j'étais dans la catégorie amateur. Et au bout de 2 jours, j'étais en finale. Il y avait de la musique, beaucoup de public. C'était la première fois que je vivais ça. J'étais un peu nerveux de voir tout ce monde. Avant de me lancer dans mon run, je me disais que j'étais seul, comme dans mon village, tranquille. Puis j'ai fumé une clope et j'y suis allé. Et là, on ressent ni la peur de se faire mal, ni le danger. La compétition, ça me pousse à prendre plus de risques pour gagner, être le meilleur. Dans ces cas-là, je teste des figures que je suis même pas sûr de passer. Ça peut foirer, mais si ça marche, les spectateurs seront contents. Et moi aussi. En fait, cette pression me pousse à prendre plus de risques. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Le risque existe aussi au travail. Certains métiers, ils sont très exposés. Nous sommes partis rencontrer l'adjudant Lyon à la caserne des pompiers de Nîmes.
Donc c'est la caserne des sapeurs-pompiers de Nîmes. Donc on est des pompiers départementaux, on fait partie de la fonction publique territoriale.
Moi je m'appelle Olivier, je suis en stage pour une radio.
D'accord.
Et j'aimerais vous poser deux ou trois questions.
Pas de problème, avec plaisir.
Prenez-vous des risques dans votre métier ?
Alors ouais, bien sûr on prend des risques, on est obligé d'en prendre des risques. Ceci dit, on les minimise au maximum, hein, de par notre formation, de par nos tenues, de par notre savoir-faire. Mais il est évident qu'on prend des risques, hein, mais on essaie de les minimiser au maximum. Donc on va visiter la caserne, donc là il y a tous les véhicules opérationnels. Là vous avez un FPT, c'est un fourgon pompe-tonne, donc ça c'est tout ce qui est incendie. Hein. Donc il y a des tuyaux, de l'eau à l'intérieur pour résumer un petit peu. Donc ça, regardez. Donc ce courroutier, ce véhicule, quand il sort, bien sûr, à votre avis, ça sert à quoi en fin de compte ?
Couper le véhicule.
Voilà, couper. Alors vous avez vu la grosseur des gros ciseaux, ouais. Quoi. Quand on sort ce véhicule, c'est qu'en général, il y a des gens qui sont incarcérés dans des véhicules suite à un accident de la route.
Pour couper le toit ou...
Voilà, on les découpe complètement pour pouvoir sortir la personne dans de bonnes conditions.
Ça a changé votre façon de conduire en voyant les accidents?
Ah oui, tout à fait. Ouais. Depuis que je suis rentré chez les pompiers, ouais. Bon, moi, ça fait quelques années déjà, mais comme je vous disais tout à l'heure, je roulais vite quand j'étais jeune, on buvait, on sortait en voiture, mais depuis que je suis rentré aux pompiers, j'ai vécu des années ici où tous les week-ends c'était, je vais le dire vulgairement, c'est la boucherie quoi. Des jeunes qui avaient bu, qui se fracassaient entre eux, des gens qui meurent, des familles qui pleurent, et c'est vrai, ça a changé ma façon de conduire.
Pendant une intervention, est-ce que vous avez de l'adrénaline?
Bien sûr qu'on a de l'adrénaline, ouais. Hein, c'est ce stress qu'on transforme en positif. Hein. Mais bien sûr, parce que encore une fois, quand vous intervenez la nuit, des fois les informations de départ, elles sont floues. Vous partez, mettons, sur un feu dans une habitation, mais vous savez pas ce que vous allez trouver quand vous arrivez, quoi. Un accident routier, pareil, on a toujours, c'est pas la peur, mais l'appréhension de trouver déjà des personnes qu'on connaît et puis voir quelqu'un qui est écrasé, qui a des membres en moins, je veux dire, c'est le quotidien de nos interventions, ça nous fait pas plaisir, quoi. On reste des êtres humains quand même. Hein. Donc on a cette appréhension-là, mais qu'on l'aborde du bon côté, puisque encore une fois, c'est notre métier, et que c'est, si personne ne le fait, et nous, on est obligé de le faire. Quoi.
La navette est en caserne. La navette est en caserne.
Donc on commence le matin à 7h, le matin, vérification du véhicule, après dans la journée, on a du sport. Vous voyez, il y a un départ, là. C'est quoi, VSAV, non ?
Ouais.
SAB, bon, on va le voir partir. Donc là, lui, c'est le chef d'agré, il va aller au standard, il va prendre un ticket. Sur ce ticket, vous aurez toutes les informations, déjà avec qui il part. Donc là, c'est une ambulance, il part chef d'agré, un conducteur, un équipier. Ils sont trois. Sur ce papier blanc, il y a le numéro du plan, parce qu'on n'est pas, on n'a pas de GPS, nous. On fonctionne au plan, vous verrez, c'est pas simple non plus. Et après, eh bien, il va se rendre sur l'intervention. Donc il faut qu'il choisisse le parcours le plus rapide. Déjà, il faut qu'il sache où il va. Et ainsi de suite.
Moi, le risque, je l'ai vécu à haut niveau. Une enfance de délinquance, une scolarité médiocre, des parents divorcés. Tout jeune, je me battais, je me faisais virer des écoles, je m'en foutais. Je travaillais pas, je voulais rester avec mes collègues. Mes parents étaient encore ensemble, on vivait paisiblement dans un petit village. Mais au fil des années, je suis devenu désobéissant. À 11 ans, j'ai commencé par voler des bombes de peinture. À 15 ans, je volais des voitures. Je cachais mon jeu, je sortais le soir en faisant croire à ma mère que j'allais en soirée. J'ai encouru des risques dangereux, les uns après les autres, jusqu'au jour où ma mère a pleuré. J'étais menotté, j'attendais enfermé dans une salle avec les gendarmes. J'étais au tribunal. Le tribunal, c'est un endroit où quand tu y rentres, tu sais pas si tu vas en sortir en étant libre ou pas, où ta vie peut basculer,
ne plus voir tes proches, ta famille. Cette puissance de l'État, oui, j'y suis passé. Et si je n'y étais jamais allé, je ne pense pas que je me serais arrêté. Je suis une personne comme toutes les autres, mais le regard de ma famille a changé.
Voilà, à une semaine, avec
Amir,
Amine,
Brandon,
Paul
et Olivier,
accompagnés d'éducateurs de la PJJ
et de l'association
Wakadji.
On a quelque chose à dire.
On a monté pour vous,
chers auditeurs,
cette émission
spéciale dédicace
et remerciements
à l'association Logos,
aux sapeurs-pompiers de Nîmes,
à Monsieur Coulant de France Bleu Gard-Lozère
et puis à Denis Lauré, le célèbre Torreur Nîmois,
à la mairie de Nîmes
et à Patrice des Arènes de Nîmes.
À bientôt.